がその手だけごめん、ただなのね、もうずし、あるのだにとねみ、すらけもせ、うたくる。
Je définis le sujet et ensuite que je lui donne son cadre historique. Définir le sujet par trois questions. La première question, qu'est-ce qu'un réveil ? La deuxième question, qu'est-ce qui peut produire un réveil ? Et la troisième question, quelles sont les manifestations d'un réveil? Spirituel, ça sera toujours un réveil spirituel, personnel et collectif. Je ne vais pas redire à chaque fois tout ça, je simplement réveil. Qu'est-ce qu'un réveil? Eh bien, pour répondre à cette question, il me semble qu'il faut s'en référer à ce que nous vivons chaque jour. Il est 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures pour les plus jeunes. Nous nous réveillons. C'est-à-dire que nos 5 sens reprennent conscience de notre environnement et des tâches qui nous attendent. Eh bien, dans le domaine spirituel, c'est un peu pareil, sauf que c'est pas les 5 sens, c'est un 6e sens qui s'appelle la foi. Par la foi, éclairée par l'écriture et l'action de l'esprit, nous prenons conscience, nous reprenons, et nous reprenons, parce qu'il faut se réveiller souvent dans notre vie chrétienne, nous reprenons conscience de la beauté des choses profondes de Dieu, pour reprendre une expression d'un Corinthiens 3, nous reprenons conscience des choses qui concernent notre Seigneur Jésus-Christ, pour reprendre une expression qui termine pratiquement le livre des Actes. Bon, ça suffit. Ça définit déjà ce qu'est un réveil. Reprendre conscience des beautés du monde spirituel, qui échappe à l'homme incroyant, parce qu'il n'a pas la lumière de la parole, il n'a pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut provoquer un réveil? Il me semble que c'est la convergence de trois choses. La première, soif de l'âme, ou des âmes, dans un rassemblement. Deux, l'action du Saint-Esprit. Et trois, la parole de Dieu, très souvent, pas absolument toujours, mais très souvent portée par un serviteur de Dieu. Pour rendre plus concret ces trois points, je vous raconte l'histoire d'un réveil collectif. Et je le fais d'autant plus volontiers que la plupart, un grand nombre d'entre nous, d'entre vous, connaissent notre région, dit le plateau. Nous sommes en 1823. Nous arrive de Suisse, sur notre plateau, un certain pasteur Louis Barbet. Il a vécu le réveil dit de Genève. Ce réveil, il a été l'instrument employé par Dieu pour ce réveil est un Anglais qui s'appelle Robert Haldane. Et dans cette église à Genève, Bourdefour, il y a Henri Pitt, Gossen, Ampétaz, Ami Bost, qui a fondé les Asiles de la Force, pas très loin d'ici, et Louis Barbet, Bon, il y a César Malan, mais César Malan, il a créé sa propre église, l'église du tabernacle. C'est un temps de réveil. Le réveil dit de Genève. Et ce Louis Barbet, il a vécu ce réveil. Et il arrive au Mazet-Saint-Voix en 1823, dans une église complètement sclérosée, complètement endormie. Pour la petite histoire, qui, symptôme qui montre bien quand même où ils en étaient, les anciens de cette église réformée étaient choisis sur le critère du fait qu'ils étaient les plus imposés de la commune. Ça serait cocasse si c'était pas si triste. Bon. Mais, dans cette église réformée, il y avait quelques âmes pieuses qui attendaient quelque chose d'authentique, de vrai, de frais. Un. Deux, il y a eu l'action du Saint-Esprit. Et trois, Louis Barbet a prêché le pur évangile, la parole de Dieu avec puissance pendant 18 mois. Au bout de 18 mois, il a été remercié par le consistoire. Il est reparti en Suisse, mais il avait semé le réveil. Cinq ou six petites réunions dissidentes se sont formées dans la campagne, côté Haute-Loire, côté Ardèche, et elles se sont rassemblées en 1824, l'année suivante, pour former l'Église libre du Rioux, qui a fêté tout le mois de juillet dernier ses 200 ans d'existence. La parole de Dieu est présentée dans les réunions, comme aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut toujours agir. Mais s'il n'y a pas la soif dans nos âmes, il n'y aura pas de réveil. C'est selon la loi, une loi physique. Si vous avez un tabouret à trois pieds, si vous en enlevez un, il ne va pas tenir debout. Il faut les trois. Maintenant, quelles sont les manifestations d'un réveil? Elles sont multiples. Quand je suis réveillé, quand nous sommes réveillés en assemblée, nous recherchons la sanctification. Nous la poursuivons, dit Paul, parce qu'elle nous fuit à cause du monde et à cause du fait que, comme le disait un frère, il y a un complice dans la place. On recherche la sainteté qui est selon la volonté de Dieu, et s'il nous arrive de pécher, on se repent. Si je suis réveillé, si nous sommes réveillés, nous lisons la parole avec plaisir. Alors, dans la lecture de la parole, il y a trois façons. La première, nous nous faisons une obligation de la lire, parce que finalement, nous savons tous que c'est un message de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu parle aux hommes, c'est extraordinaire. Si on persévère, ça devient un besoin. Et si on persévère encore, ça devient un plaisir. Et parfois, dans notre vie chrétienne, on rétrograde de plaisir, on retombe à besoin. Et des fois, on rétrograde encore à obligation. Puis, si on persévère, on peut remonter. Quand on est réveillé, on prie facilement. Pour tout, pour les petites choses comme pour les grandes. Très facilement. Quand on est réveillé, on laisse agir le Saint-Esprit. Ça, c'est une grande affaire. Mais c'est important. Quand on est réveillé, on va au culte avec joie. Même s'il fait froid, même s'il pleut, même s'il fait très chaud. Quand on est réveillé, on a des cultes qui ont de l'élan, de l'élévation, de la profondeur. On échappe à notre insu à la routine ou, comme le disait un autre, aux expressions usées jusqu'à la corde. On a des pensées nouvelles, on a des passages nouveaux. Un culte ne ressemble pas à notre culte quand on est réveillé. Quand on est réveillé, on est dans l'admiration et l'adoration devant le grand mystère de la piété. Dieu vient dans un homme extraordinaire. Quand on est réveillé, on suit avec adoration et émerveillement la vie de cet homme de la crèche à la croix, dont chaque pas apporte à Dieu un délice nouveau. On admire ce ministère si court, mais si fécond, ces paroles extraordinaires de Jésus, ministère caractérisé par la grâce et la puissance. On est là, respectueux, on n'a pas beaucoup de mots devant sa croix douloureuse, devant l'acceptation de la volonté de Dieu et l'accomplissement de cette volonté. Devant la croix, monument de la misère des hommes, de leur méchanceté, monument de l'amour infini de Dieu, comme aussi de sa justice. On est touché profondément quand on est réveillé par l'amour de Jésus qui nous a aimés jusqu'à la croix. On est heureux, joyeux devant le tombeau vide et le trône occupé. On est joyeux dans l'espérance de son prochain retour. Quand on est réveillé, on est éclairé par la lampe de la prophétie qui nous montre ce qui va arriver bientôt, mais surtout la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ dans sa gloire. Quand on est réveillé, dans la vie de l'assemblée, on se supporte l'un l'autre dans l'amour. Quand on est réveillé, on a de la compassion pour ceux qui souffrent dans l'Église. On a du respect pour les anciens et une grande attention pour les jeunes. Quand on est réveillé, on confesse facilement nos gaffes en assemblée à nos frères et sœurs. Quand on est réveillé, on se pardonne mutuellement les offenses qu'un frère ou une sœur peut nous avoir fait ou un voisin. Bref, quand on est réveillé, on s'aime les uns les autres d'un amour vrai. Quand on est réveillé, on a un amour ardent pour les âmes perdues et on essaie de saisir les occasions pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour, selon cette parole un peu osée de Paul, en sauver quelques-uns. Quand on est réveillé, on est reconnaissant pour la liberté qu'on a dans notre pays, on prie pour nos frères et sœurs, 150 millions de chrétiens qui sont sous la persécution. Je pourrais allonger la liste, mais c'est déjà pas mal. Mais en faisant cette liste, je suis un peu confus, parce que je le réalise si peu. Mais pourtant, j'ai une petite maxime qui s'applique à beaucoup de choses, même à la vie de l'Assemblée. Tendre sans prétendre. Et puis, je sais bien que ni moi, ni vous, ni nous en Église, nous ne pouvons réaliser cela sans le secours de l'Esprit et sans la grâce de notre Maître. Voilà l'introduction au réveil. Maintenant, le cadre historique de ces réveils des rois de Juda. Le règne de David, le roi de la grâce, le roi souffrant, avait culminé en celui de Salomon, le roi de gloire, caractérisé par la richesse et la sagesse. Et ces deux règnes cumulés avaient offert une belle illustration du règne futur du Messie, le roi de Dieu. J'ai oint mon roi sur Sion, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais bien vite, des forces obscures et idolâtres, introduites par les femmes étrangères de Salomon, avaient miné ce beau royaume par l'intérieur et s'étaient déchirés en deux, à l'instar du manteau d'Akija qui vient l'annoncer à Salomon. Et Salomon, lui, termine sa vie comme un bateau qui sombre. Dorénavant, il y avait deux parties du royaume d'Israël. Royaume des 10 tribus au nord et au sud, Juda et Benjamin. Les 10 tribus au nord, souvent appelées Israël, tout court, ont été gouvernés par 19 rois en 9 dynasties, tous des rois impies, à commencer par Jéroboam I, qui avait mis un veau à Bethel et un veau à Dan. Et ce royaume du nord, dans les 230 ans de son histoire, était allé de guerre fratricide avec Juda au sud, en guerre civile et en guerre avec ses voisins, la Syrie, les fils d'Ammon, les fils de Moab. Ce royaume du nord, miné par l'idolâtrie, a finalement, au bout de 230 ans, terminé en catastrophe. Samarie, la capitale, fondée par Omri, le roi Omri, après 3 ans de siège, est tombée sous les coups de bélier des Assyriens. Une partie du peuple a été passée au fil de l'épée, un petit résidu est parti en Assyrie, dont ils ne sont jamais revenus. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup de Juifs en Irak avant la guerre du Golfe, en 90. Et pourtant, ce royaume du Nord, Dieu avait parlé à ce peuple, par quelques prophètes, pas beaucoup, mais quelques prophètes, en particulier Élie le Tisbite. Élie avait tonné aux oreilles d'Akab et de Jézabel, ce couple terrible. Il avait tonné les avertissements de Dieu. Et il avait mis à mort 900 prophètes de Baal, le Baal des Tyriens qu'avait amené Jézabel. Et il les avait égorgés au torrent du Kéry. Il y avait eu Jonas, Amos, le berger, il y avait eu Osée qui avait dénoncé la prostitution spirituelle d'Israël, mais il avait dit aussi l'amour de l'Éternel pour son peuple infidèle, et il avait appelé cette femme infidèle à revenir à l'Éternel, la voix des prophètes. N'avait pas eu un effet, n'avait pas écouté la voix des prophètes. Et ça s'était terminé en catastrophe. Et le petit royaume de Juda au sud, Benjamin, lové sur les montagnes, sur les collines arides de Judée. Juda, selon le prophète Osée au chapitre 12, marche encore avec Dieu. Pourquoi marche-t-il encore avec Dieu? Pour plusieurs raisons, au moins trois. La première, c'est qu'ils ont conservé le temple. Ils ont conservé Jérusalem comme capitale, la ville sainte, le temple, les sacrifices, les sacrificateurs, le service des Lévites, et tout cela rattachait le peuple à son Dieu Yahvé. Deuxièmement, ce royaume de Juda a été gouverné par 20 rois, en une dynastie, la dynastie davidique. Et parmi ces 20 rois, il y en a quelques-uns qui ont été des rois pieux. Asa, que nous avons considéré, Josaphat, Joas, cet après-midi, dans une mesure, Jotham et Ozias. Ozias, c'est celui qui a régné le plus longtemps, 55 ans, qui est mort lépreux, et surtout le fidèle et pieux Ézéchias, et celui que j'appelle le dernier flambeau, Josias. Ces rois, pieux, fidèles, ont fait des efforts avec l'aide de Dieu pour extirper l'idolâtrie accrochée au cœur du peuple élu. Ces réveils ont été plus ou moins profonds, plus ou moins partiels, plus ou moins durables. Mais à côté de ces rois pieux, il y a eu aussi des rois impies, à commencer par Roboam, dont les paroles dures ont précipité le schisme. Il y a eu le père d'Ézéchias, Akaz. Lui, c'est l'homme du changement. Il a déplacé l'autel, comme certains maintenant veulent tout bouleverser, l'ordre du culte, bon, ils veulent tout changer, comme Akaz. Il a éteint les lampes, il n'y a plus la lumière de l'esprit, et finalement il a fermé les portes. Et pourtant, Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné un signe, le signe du signe. Là, chacun sera enceinte et enfantera un enfant et on appellera son nom Emmanuel. C'est pareil à Caz. Et le fils aussi d'Ézéchias, Manassé, 52 ans de règne, dont ce règne qui a rempli Jérusalem de sang et d'autels. Et puis, les derniers rois de Juda, Jéhoiakim, Jéhoiakim, Sédécias. Ce royaume de Juda a été privilégié au niveau des prophètes. Là, il y en a beaucoup. Alors, le grand prophète Ésaïe, qui jette, selon la parole d'un autre, qui jette dans ce monde des paroles de génie. Prophète Ésaïe, ceux qui lisent le prophète Ésaïe en hébreu disent que c'est une merveille. Ésaïe, c'est le Cicéron hébraïque. D'une beauté, même en français, d'une beauté extraordinaire. Et une prophétie très étendue. Les mentions du Messie très nombreuses. Il y a eu Ézéchiel, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, puis beaucoup de petits prophètes. Et la voix de ces prophètes s'est fait entendre pour essayer de ramener le peuple, pour le réveiller. Mais finalement, 130 ans après les 10 tribus, c'est la catastrophe. Après 18 mois de siège, Jérusalem tombe, elle aussi, sous les coups de bélier des Babyloniens. La plupart du peuple est passé aussi au fil de l'épée, et un petit contingent part à Babylone. Babylone, Jérusalem, 1000 kilomètres, nus et nu-pieds, dit le prophète Ésaïe. Ils font la route qu'Abraham a fait 15 siècles avant, en sens inverse, pour arriver dans la terre promise. Là, c'est, il semble qu'il y a une rupture dans l'histoire d'Israël terrible. Il semble que là, à ce moment-là, le plan de Dieu capote. C'est pas possible. Dieu veille sur son plan. Et un petit contingent de 40 000 personnes remonte sous la conduite de Zorobabel, Esdras, Némi. Il faut que la tribu de Judas soit dans sa terre. Pourquoi ? Pour recevoir le Messie 5 siècles plus tard. Pourquoi ? Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, sans contredit, notre Seigneur est surgi de Judas. Ça, c'est la merveilleuse histoire de la fidélité de Dieu, mais ça, c'est une autre histoire. Nous abordons, après cette introduction un peu longue, nous abordons le règne d'Asa, le réveil sous Asa. Et je fais la lecture, c'est important. La lecture est importante, même si elle est un peu longue, mais je ne crois pas que ce soit redondant, parce que, je ne sais pas dans vos assemblées, mais ça m'étonnerait qu'on lise tous les dimanches dans le livre des chroniques. Alors, nous ouvrons notre Bible dans le livre des chroniques au chapitre 14. Le règne d'Asa, c'est 1 chronique 14, 15... Et 16. Je ne vais pas tout lire, mais faire un choix. Toutefois, il faut quand même lire le texte. Deux chroniques 14. Et Abijah s'endormit avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David, et Asa son fils régna à sa place. De ses jours, le pays fut en repos pendant 10 ans. Et Asa fit ce qui est droit, bon et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Et il ôta les autels des dieux étrangers et les hauts lieux, et il brisa les statues et abattit les achères, et il dit à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, et de pratiquer la loi et les commandements. Et il ôta de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les colonnes consacrées au soleil. Et le royaume fut tranquille devant lui, et il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays était tranquille. Et il n'eut point de guerre pendant ces années-là, car l'Éternel lui donna du repos. Verset 8. Et Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier, la pique, et 280 000 de Benjamin, portant l'écu et tirant de l'arc, tous des hommes forts et vaillants. Et Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux, avec une armée 1 million d'hommes et de 300 chars, et il vint à Maresha. Et Asa sortit au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Maresha. Et Asa invoqua l'Éternel son Dieu, et dit, « Éternel, il n'y a point de différence pour toi, pour aider, entre beaucoup de force et point de force. Aide-nous, Éternel notre Dieu, car nous nous appuyons sur toi. Et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette multitude. Tu es l'Éternel notre Dieu, que l'homme n'ait point de force contre toi. » Et l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens s'enfuirent. Chapitre 15. Et l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, et il sortit au devant d'Asa et dit, « Asa, et tout Juda et Benjamin, écoutez-moi, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant bien des jours, il n'eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur pour enseigner, ni loi. Et dans leur angoisse, ils se retournèrent vers l'Éternel, le Dieu d'Israël, et le cherchèrent, et ils l'ont trouvé. Et en ce temps-là, il n'y avait point de paix pour ceux qui sortaient et qui entraient, car il y avait beaucoup de troubles parmi les habitants du pays, les nations se brisaient contre nations et ville contre ville, car l'Éternel les troublait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous, et que vos mains ne soient point lâches, car il y a une récompense pour ce que vous ferez. Et quand Asa eut entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète, il se fortifia et fit disparaître les choses abominables de tout le pays du Juda et de Benjamin, les villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il renouvela l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Et il rassembla tout Juda et Benjamin et les étrangers qui étaient avec eux, et l'Éternel et avec eux, d'Éphraïm et de Manassé et de Siméon, car beaucoup d'Israélites passèrent à lui quand ils virent que l'Éternel son Dieu était avec lui. Et ils se rassemblèrent à Jérusalem le troisième mois de la quinzième année. Et ils sacrifièrent à l'Éternel en ce jour-là du butin qu'ils avaient amené, 700 bœufs et 7000 moutons. Ils s'engagèrent ensemble à rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme, établissant que quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, serait mis à mort, tant petit que grand, tant homme que femme. Ils jurèrent à l'Éternel à haute voix et à grand cri, et avec des trompettes, avec des cors. Et tout Juda se réjouit du serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, et ils avaient recherché l'Éternel, le Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, et l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos tout alentour, et même à Maaca, sa mère, le roi Asa, ôta sa position de reine, parce qu'elle avait fait un simulacre pour Asher, et Asa abattit son simulacre, et le broya, et le brûla dans la vallée du Cédron. Mais les hauts lieux ne furent pas ôtés, cependant le cœur d'Asa fut parfait tous ses jours. Il apporta dans la maison de l'Éternel les choses saintes de son père et les choses qu'il avait lui-même consacrées, de l'argent, de l'or et des ustensiles. Il n'eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Chapitre 16. Et la 36e année du règne d'Asa, Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda. Et il bâtit Rama afin de ne permettre à personne de sortir de chez Asa, roi de Juda, ou d'entrer vers lui. Et Asa tira l'argent et l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il l'envoya vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas, disant, « Il y a alliance entre moi et toi, entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Romps. Va, romps ton alliance avec Baasha, roi d'Israël, afin qu'il s'en aille de près de moi. » Et Ben-Hadad écouta le roi Asa, et envoya les chefs de ses troupes contre les villes d'Israël, et ils frappèrent Ijon et Dan et Abel-Mahim, et tous les entrepôts des villes de Nephtali. Et il arriva quand Baasha l'apprit qu'il se désista de bâtir Rama, et il fit cesser les travaux. Et le roi Asa prit tout Juda, et ils emportèrent les pierres de Rama et les bois avec lesquels Baasha bâtissait, et en bâtirent Geba et Mitzpah. Et en ce temps-là, Hanani, le prophète, le voyant, vint vers Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur ton Dieu, à cause de cela l'armée du roi de Syrie est échappée de ta main. Les Éthiopiens et les Libyens n'étaient-ils pas une armée nombreuse, avec des chars et des cavaliers en très grand nombre? Quand tu t'appuyais sur l'Éternel, il les livra entre tes mains, car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. En cela, tu as agi follement, car désormais tu auras des guerres. » Et Asa s'irrita contre le voyant et le mit en prison, car il était indigné contre lui à cause de cela. Et en ce temps-là, Asa opprima quelques-uns du peuple. Et voici les actes d'Asa, les premiers et les derniers. Voici, ils sont écrits dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Et la 39e année de son règne, Asa fut malade des pieds jusqu'à ce que son mal fût extrêmement grand. Et dans sa maladie aussi, il ne rechercha pas l'Éternel, mais les médecins. Et Asa s'endormit avec ses pères et mourut la 41e année de son règne. Et on l'enterra dans son sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David, et on le coucha dans un lit qu'on remplit d'aromates et d'un mélange d'épices composé selon l'art des parfumeurs, et on brûla pour lui, et on en brûla pour lui en très grande quantité, abondance. Vous vous souvenez que dans les manifestations du réveil, j'ai placé en tête la sanctification, c'est-à-dire en fait le rejet du péché. Sanctifié par la parole. La première chose qu'on fait après le réveil, qu'est-ce que c'est ? Ben c'est la toilette. On fait une douche, une toilette rapide. On enlève les impuretés. C'est le côté négatif. Et c'est important. Sanctification, dans la vie du chrétien, le rejet du péché, le lavage d'eau par la parole, c'est primordial. Mais, après tout, c'est que l'aspect négatif. Que dirait-on d'une personne qui se laverait toute la journée ? Il y a un problème. Et c'est ce que fait Asa. Il ôte ce qui est abominable dans son royaume. On l'a lu plusieurs fois. Il commence au verset 3. Il ôte les autels des dieux étrangers et les hauts lieux, et il brise les statues et abat les achères. Quand après, au chapitre 15, le prophète lui parle, il fit disparaître les choses abominables de tout le pays. Et même, ce qui est le plus difficile, c'est qu'il intervient à propos de sa mère. Il destitue la reine parce qu'elle avait fait un simulacre de chair. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, Asa. Il n'est pas influencé par la relation avec sa mère. Il ne veut pas que dans son royaume, la reine soit impliquée dans l'idolâtrie. Ah non. La sanctification dans la vie du chrétien. Et ensuite, après la toilette, qu'est-ce qu'on fait ? On déjeune. Ça, c'est l'inverse. Le lavage élimine les impuretés et le déjeuner apporte des éléments pour nous fortifier. On se fortifie comment ? Plusieurs moyens. On se fortifie par la parole. Les jeunes gens sont forts parce que la parole de Dieu demeure en eux. Il n'y a pas que les jeunes gens. On se fortifie par le ministère de la parole. Paul et Barnabas repassent dans les villages et dans les villes où il y a eu des conversions et ils fortifient l'âme des disciples. Acte 14. On est fortifié par l'Esprit. Fortifié par l'Esprit, en puissance par l'Esprit, Éphésiens 3. On est fortifié par la prière. J'ai crié vers toi, tu m'as répondu, tu as augmenté la force de mon âme. Psaume 138. On est fortifié par la grâce. J'en ai déjà parlé. Fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. dans notre relation avec Dieu, avec notre Seigneur, on n'est pas sur le système du donnant-donnant. On est sur le système de la grâce, heureusement. Et ça, c'est une force. Et enfin, cinquièmement, on est fortifié par le Seigneur Jésus lui-même, et surtout dans des temps d'épreuve. Le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, dit Paul, du fond de sa prison. Sanctification. On est fortifié. Et ainsi, on a fait sa toilette, on a déjeuné, on peut aller travailler. On peut envisager la journée. Et même traverser des épreuves. Et c'est ce que va rencontrer Asa. Il a fait disparaître toutes les choses abominables. Il s'est fortifié. C'est mentionné deux fois. Vous donc chapitre 15, verset 7. Vous donc fortifiez-vous et que vos mains ne soient pas lâches. Et quant au verset 8, quand Asa eut entendu ces paroles, et les paroles prophétie d'Odette, il se fortifia. Sanctifié, fortifié, il va pouvoir traverser l'épreuve. C'est quoi une épreuve? On pense tout de suite à maladie, mais c'est pas toujours ça, hein. Non. C'est un test. On parle de l'épreuve du bac. C'est un test de connaissance. On connaît beaucoup de choses, et puis arrive le test. Et Satan nous attaque. Il attaque notre foi. C'est l'épreuve de la foi. Répète Pierre et Jacques, abondamment. C'est pas exactement le croyant qui est éprouvé, c'est sa foi. Vous me direz, c'est à peu près pareil. Non. Faut bien faire attention au terme de l'écriture. L'épreuve de la foi. Parce que Satan, il attaque pas la périphérie de notre vie chrétienne. Il attaque pas notre connaissance de la Bible. Il attaque notre foi. C'est le noyau central de notre vie spirituelle, notre confiance en Dieu. D'ailleurs, si nous étudions le réveil sous Ézéchias, on voit bien la chose. Hein. Le Rav Chaquet, en bas des murailles, il dit « Quelle est cette confiance que Ézéchias a emplacée en l'Éternel ?» Il attaque la confiance d'Ézéchias en Dieu. Mais dans un sens, c'est beau aussi, parce que même les ennemis savaient qu'ils se confiaient en Dieu. Satan attaque notre foi. Il veut l'ébranler, notre foi. Paul avait des craintes que la foi des Thessaloniciens soit branlée. On a le terme. J'aime beaucoup parce que Tite arrive et lui donne des bonnes nouvelles de leur foi. Quand on se salue, on demande des bonnes nouvelles de la santé. Certes, c'est important, mais les bonnes nouvelles de la foi, c'est peut-être encore plus important. Et cette épreuve de la foi d'Asa, elle est ce 1 million d'Éthiopiens qui arrivent contre sa petite armée de 500 000 avec Benjamin, ça fait 500 000. Bon, il fait pas le poids, Asa. Nous non plus, on fait pas le poids dans les épreuves. Non, on fait pas le poids. Mais c'est notre confiance en Dieu qui fait la différence. Asa, il a une petite armée, mais il connaît son Dieu. Et là, il lance une prière flèche à Dieu, magnifique, il faut la relire, cette prière. Il n'y a pas de différence pour toi, pour aider entre beaucoup de forces et points de force. Aide-nous, Éternel notre Dieu, car nous nous appuyons sur toi. Et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette multitude. Tu es Dieu, l'Éternel notre Dieu, que l'homme n'ait point de force contre toi. Magnifique prière qui montre la foi de cet homme. Et c'est un homme réveillé qui connaît son Dieu. Il s'appuie sur lui. Et Dieu lui accorde une victoire magnifique contre un million d'hommes. Au chapitre 15, nous avons une mention du 15e, de ce qui se passe à la 15e année du règne d'Asa. On voit qu'il est encore réveillé parce que il exhorte son peuple à s'engager ensemble à rechercher l'Éternel son Dieu, le Dieu de leur père, de tout leur cœur, de toute leur âme. Le résultat, c'est que Juda se réjouit, et ils offrent des holocaustes, donc ça veut dire que le culte est rétabli. Quand le peuple est réveillé, il adore. Il adore Dieu. Nous arrivons au chapitre 16, à la 36e année du règne. Le verset du 19, il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Si j'ai bien compté, ça fait 25 ans de paix. Après la victoire sur les Éthiopiens. Mais au chapitre 16, une nouvelle épreuve arrive. Ah ben oui, on en a traversé, mais il y en a une nouvelle qui arrive. Comme le dit l'Ecclésiaste, parfois, les nuages reviennent après la pluie. Qu'est-ce qui nous attend dans les jours à venir? Une nouvelle épreuve, Dieu seul le sait. Mais on en a traversé plusieurs. Et là, c'est Baïcha, roi d'Israël, des frères, une lutte fratricide, c'est terrible, qui vient contre lui avec son armée. Et que fait Asa? Il n'a pas du tout la même attitude que la première fois quand un million d'hommes venaient. Non, il ne prie pas. Il dépouille le temple et il envoie de l'argent, de l'or au roi de Syrie, à Damas, pour qu'il rompe son alliance avec Baïcha, roi d'Israël. Se serait-il endormi? Aurait-il oublié de se sanctifier, de se fortifier? Dieu n'abandonne pas son serviteur et lui parle par un prophète, un voyant, pour lui rafraîchir la mémoire. Te souviens-tu quand tu t'as appuyé sur l'Éternel et que les Éthiopiens sont venus au début de ton règne? Tu as oublié? Et au lieu d'écouter la parole de Dieu par le prophète, il le jette en prison. Il ne veut pas écouter la parole de Dieu, Asa. C'est grave quand nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Il fait comme un roi, je crois que c'est Jéhoiakim ou Jéhoiakim, quand les amis de Baruch lisent le rouleau de la loi, il prend un canif et il lacère le rouleau et il le jette dans le feu. Oui, mais jeter la parole de Dieu au feu, ça ne résout pas le problème. Nous non plus, quand, selon la parole de Paul, nous ne supportons plus la parole d'exhortation, on la rejette et ça ne résout pas notre problème. Ah non, non, non. Et Asa, Dieu ne l'abandonne pas encore, il lui envoie quelque chose de plus personnel, une maladie. La façon normale de Dieu de nous parler, c'est sa parole. Ça c'est clair. Mais si nous ne voulons pas écouter, il peut employer d'autres moyens plus personnels. Il peut employer les grands moyens. Mais attention, je m'empresse de dire deux choses. C'est que les maladies, ne sont pas toujours envoyés parce que nous sommes dans un mauvais chemin. Ça serait généralisé, ça serait ni juste, ni charitable. Faire attention à ça. Deuxièmement, je m'empresse de dire que les médecins, les chirurgiens, les infirmières, voire les dentistes, les ostéopathes, etc., tout le monde médical, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ah non. Non, non, nous sommes reconnaissants parce qu'ils nous soulagent dans les maladies. Nous, mais après tout, ils ne sont que des moyens dans la main de Dieu. J'aime cet exemple d'un frère qui raconte, un frère qui a maintenant plus de 80 ans, il raconte qu'il a ce souvenir d'enfance de son grand-père, très âgé, qui est assis à côté de la table, et il a son verre d'eau là, et puis c'est caché là, il est dans son fauteuil, et il joint les mains, il prie. Il prie avant de prendre les remèdes. Bien, je vous garantis que ce chrétien-là, il ne s'appuie pas sur les médecins au lieu de s'appuyer sur l'Éternel. Non, non. Bon, souvent, nous ne faisons pas ça. Nous avons un cachet d'aspirine, enfin bon, bref. Ne tombons pas dans du légalisme. Mais on prie avant d'aller chez le médecin pour quelque chose de grave, d'être une intervention chirurgicale. Il ne faut pas faire comme hasard. Et ce qui est désolant avec hasard, c'est cette fin. Dans sa maladie, il ne s'appuie pas aussi, comment il est dit, ce aussi, c'est un glas. Son mal fut extrêmement grand et dans sa maladie aussi, il ne rechercha pas l'Éternel. Alors, vous voyez, hasard, c'est décevant à la fin. Il avait été l'instrument d'un réveil pour le peuple, mais il finit finalement, lamentablement, sans se repentir, sans écouter la voix de Dieu. Alors maintenant, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous sommes au début de la vie de ce roi Hasard à nous sanctifier, à rejeter de notre vie ce qui déshonore Dieu? Je donne un exemple personnel, qui n'est pas forcément à mon avantage. Nous avons tous, autant que nous sommes là, nous avons tous traversé une épreuve longue, aussi inattendue, et on se demandait si on en verrait le bout, le Covid, il y a 5 ans, 4 ans et demi. Et c'était assez solennel. Ces morts, tous ces morts dans l'église à Mulhouse, ces milliers de morts dans les hôpitaux, ces milliers de personnes en assistance respiratoire, le personnel soignant épuisé par cette pandémie, l'économie au ralenti, nos locaux de réunion fermés. Il fallait, vous vous en souvenez, il fallait remplir une fiche pour aller faire ses courses. Nous, personnellement, on n'est pas allé faire les courses de plus d'un mois. On vivait en autarcie. Et jusqu'au fond de nos campagnes, on avait le sentiment que la mort planait sur nos têtes. C'était très étrange. Et là, personnellement, j'ai réagi très fort. Je n'ai jamais autant perçu l'imminence du retour de Jésus. J'avais l'impression qu'il avait la main sur la poignée pour ouvrir. Et là, j'ai réagi fortement. J'ai fait le grand ménage, comme hasard. J'ai enlevé de la maison toutes les revues et livres qui titillait ma conscience. Allez, hop, tout ça à la benne, à papier. Quand j'y pense, je lui dis, tu allais un peu fort là. Mais en fait, j'ai pas de regret, c'était la réaction du moment. Dieu peut nous parler, peut nous sanctifier aussi par des choses comme ça. Hein. Et c'est de temps en temps, il faut faire le ménage aussi, dans nos habitudes. Est-ce que, comme hasard, nous recherchons la sanctification? Est-ce que, comme hasard, nous nous fortifions avec ces cinq moyens de fortification que de l'âme dont j'ai parlé? Et l'épreuve arrive, mais nous sommes prêts, nous sommes sanctifiés, fortifiés, et prêts à affronter l'épreuve, le test, par la force que Dieu nous donne, pas par notre propre force. Nous ne faisons pas le poids comme son armée ne faisait pas le poids. Et Dieu nous donne la victoire. Ou alors nous sommes peut-être dans la 36e année en train de bricoler avec des moyens humains en nous appuyant sur des moyens charnels au lieu de nous appuyer sur Dieu. Et Dieu nous parle par sa parole et comme Jésus parlait à ses disciples, il leur dit, mais vous souvenez-vous pas que j'ai multiplié les pains pour ces 5 000? N'avez-vous point de mémoire? Eh oui, on se souvient pas, non pas des délivrances passées, mais du Dieu des délivrances. Il y a une différence entre ça. Bon, on a connu des délivrances, mais c'est le Dieu qui nous a délivrés. C'est celui-là qui est le même encore aujourd'hui. Dieu nous parle par sa parole. Sommes-nous comme Asa qui n'écoute pas et qui met le prophète en prison? Nous mettons le frère qui parle en prison. Ça veut dire quoi? Ah ben, vous savez, c'est des fois on fait comme en politique quand on veut pas écouter un frère quand ça nous dérange. Quand il y a un candidat qui va se présenter, vous êtes sûr qu'on lui sort des vieilles casseroles pour essayer de l'abattre. Mais ce frère qui parle, il a fait ceci, cela dans le passé. Mais est-ce que nous savons s'il s'est repenti de tout ça? Oui, mais en fait, nous jouons un jeu dangereux. Nous attaquons le frère, mais en fait, nous résistons la parole parce que ça ne nous plaît pas tellement. C'est un jeu très dangereux. Le frère, c'est pas grand-chose. La parole de Dieu, c'est ça l'important. Le frère qui parle, il n'est pas parfait, il n'a pas été parfait par le passé, ça c'est sûr. Mais la parole de Dieu, dans ce cas-là, elle est l'épée de l'esprit. Elle n'est pas qu'une épée, la parole. Non, quand elle nous console, elle n'est pas une épée. Mais des fois, elle est une épée. Et si nous n'écoutons pas, Dieu peut nous parler encore par d'autres choses, comme hasard, par des maladies, par des choses sensibles. Un frère, autrefois, Henri Rossier, disait que c'est très rare dans la vie d'un chrétien que l'épreuve de la foi soit à l'état pur. Même si nous sommes dans une bonne voie, nous marchons fidèlement avec Dieu, nous sommes droits, il y a toujours quand même dans les épreuves qui nous sont dispensées quelque chose à juger. Je pense qu'il avait, un frère expérimenté qui avait raison. L'épreuve de la foi à l'état pur, ça a eu lieu que dans la personne de Jésus. Il n'y avait rien à consumer dans sa vie. Rien. Mais nous, des fois, on marche avec Dieu, droitement, puis vient une épreuve, et puis tiens, on se rend compte qu'on avait quelque chose à juger que Dieu nous a montré. Ben, il faut le juger. Il ne faut pas faire comme Asa qui n'a pas écouté la parole de Dieu. Le réveil sous Asa, vous voyez, il y a des zones lumineuses qui nous ont encourager, qui nous encourage, il y a des zones d'ombre qui nous avertissent. Je vous remercie de votre longue patience. Écoute.